Et sans attendre, je souligne le grand retour de Maëlys dans Tous Politiques, qui n'était pas là la semaine
In
dernière.
extremis. In extremis.
Et
Mais
qui.
je suis d'accord.
Oui, et tu nous avais beaucoup manqué la semaine dernière, et donc c'est l'heure de la
Peut-être même il y a
sociologie.
2 semaines d'ailleurs.
Oui,
Il y a deux
merci le
semaines.
troll pour
Le
le rappel
JRA,
calendrier.
journal radiophonique amplifié la semaine dernière.
Ah oui, en effet. Donc c'est maintenant l'heure de la
Sociologie
sociologie sur Tous
politique.
Politiques. Bonsoir, Maëlys.
Bonjour Mathias.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris!
Bonjour Mathias. Aujourd'hui, un peu de sociologie politique et de sociologie des médias dans ce monde de brut. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier soir, 5 des 11 candidats se sont affrontés dans un des exercices les plus courus de la campagne présidentielle, j'ai nommé le débat télévisé. Au programme, différentes questions sur des sujets de société, d'économie, de la politique internationale, avec des argumentaires des candidats plus ou moins développés, tentant d'être convaincants, logiques, mais campant tous une position bien précise, celle de leur parti politique respectif. Le tout sous les remarques judicieuses et perspicaces de Gilles Boulot et de Anne-Claire Coudray, présentateur.
Oui, oui, bien sûr.
Bon alors, dans l'histoire, on a trois larrons, les candidats, le public et le média en question. J'ai nommé ici une chaîne de télévision qui a coutume de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, TF1. Mais bon, Mathias, tu t'es toujours demandé, lors de tes insomnies les nuits de pleine lune, je suis sûre, quels sont les mécanismes sous-jacents derrière ce débat avec ces candidats qui tentent de convaincre et d'affirmer leur position clairement pour se distinguer de leurs adversaires, le tout dans le format préétabli de la chaîne qui, au demeurant, n'a pas jugé nécessaire d'inviter les 6 autres candidats.
Tu retranscris exactement ma pensée d'hier soir à 3h35.
Exactement. Mais qui choisit les sujets abordés? De mettre par exemple l'accent sur la laïcité plutôt que sur le réchauffement climatique? Sur le chômage plutôt que sur la moralisation de la vie politique en France par exemple? Comment cherche-t-on à convaincre, persuader, voire manipuler le public des lecteurs? Bref, comment marche la communication politique par les médias et quels sont ses effets?
Maëlys vous révèle tout.
Voilà. C'est une question assez ancienne dans les sciences sociales. Ça fait à peu près 45 ans que ce questionnement est né. Et ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et cela s'est surtout développé avec la sociologie américaine, dont les médias et les sondages sont un acteur incontournable depuis très très longtemps. Bref, pour vous ce soir public, en direct sur Transistor, les sciences sociales ont forgé de nombreux concepts et petits outils théoriques pour comprendre comment ça marche tout ça. Donc, l'une des études introductives majeures de ce genre de considération, c'est l'étude des Américains Shaw et McCombs en 1972, The Agenda Setting Function of Mass Media, qui détermine la première, en fait, le concept de mise sur agenda d'un problème. Donc, ça, c'est un concept de sociologie politique, ou agenda setting, en fait, pour ceux qui n'en ont rien à foutre de la clause Molière. Donc, dans cette étude, ils souhaitent mesurer la relation entre la couverture de l'élection présidentielle américaine de 68 dans les actualités et les sujets perçus comme importants par le public. Donc, en fait, ils observent une corrélation quasi parfaite entre les thèmes considérés comme importants par une centaine d'électeurs indécis, interrogés par questionnaire, et ce ressortant d'une analyse en fait de contenu de différents médias de masse. Donc McCombs et Shaw en fait concluent que la focalisation de la presse sur certains thèmes amène son public à les considérer comme plus importants, plus saillants que d'autres en fait, et met sur l'agenda en fait un certain nombre de problèmes à résoudre. Donc les médias n'imposent pas vraiment ce que l'on peut penser, mais ils vont structurer ce qui va être important pour les individus en les évoquant fréquemment et en ceinturant l'espace médiatique. Bref, ils vont déterminer l'attention sélective que l'on va porter sur tel ou tel problème. Bon, si la causalité n'est pas encore vraiment prouvée entre discours médiatique et opinion individuelle, en effet, est-ce que c'est la télé qui fait l'opinion publique ou est-ce qu'elle ne fait que la refléter? Et si cette causalité peut aussi être double, cette étude a ouvert la porte à tout un champ d'interrogations disciplinaires. Est-ce que vous me suivez pour le moment?
Tout à fait, comme d'habitude.
Avec la mise sur agenda. Donc dans la continuité...
Même Rémi suit là-bas.
Oui, tout à fait.
Dans la continuité de tout ça, en fait, je vais vous présenter ce qu'on appelle la théorie du cadrage, donc le framing, si vous voulez, vous la pétez en VO. Donc c'est une théorie qui a été travaillée en économie comme en sociologie, et donc l'idée sous-jacente en fait, de cette théorie, c'est que notre perception de la réalité est déterminée par des cadres préétablis que nous ne décidons pas nécessairement. En fait. Donc en gros, on entrevoit toujours la réalité à travers un cadre, avec des éléments qui sont dans le champ et des éléments qui sont hors champ. Donc plus concrètement, selon la manière dont on formule le problème, ça ne va pas produire les mêmes réactions. En fait, voilà. Donc rien de nouveau sous le soleil, en fait, et l'exemple typique d'études dans ce champ disciplinaire, c'est le travail de Kahneman, prix Nobel de QV 2009 d'économie, et de Tversky, en 1981, qui ont développé en fait la notion de cadrage en économie et ont modestement donné naissance à toute une sous-discipline, l'économie comportementale, voilà, qui a introduit les méthodes des sciences cognitives en économie. Donc en fait, Kahneman et Tversky, ils font une expérience sur deux groupes d'étudiants qui ont le choix entre deux options. Donc en fait, au premier groupe, ils vont poser le problème numéro 1. On a une épidémie qui touche 600 personnes et on demande aux étudiants de choisir entre deux programmes sanitaires. Donc réponse A, programme A en fait, 200 personnes sont sauvées. Programme B, c'est un programme dont l'issue est incertaine, mais dont la probabilité de résultat, c'est qu'un tiers des personnes soient sauvées et que deux tiers des personnes ne soient pas sauvées. Donc à votre avis, ils choisissent quoi comme programme ?
Attends, t'as bien dit qu'il y avait 600 personnes ?
Ouais, 600.
Oui, donc en fait, ça revient
mais du
même.
Coup, un tiers, c'est 200 personnes.
Ouais, mais donc, c'est une probabilité, donc c'est plus risqué. Le deuxième programme.
Mm-hmm. Mais donc on choisit 200 personnes parce qu'on a un chiffre dur.
200 personnes sûres ou à peu près un tiers personne de probabilité et deux tiers personnes qui ne seront pas sauvées.
Ah, du coup, autant prendre le programme qui est sûr, non ? Je sais pas.
Oui, le programme qui est sûr avec un chiffre tangible.
Donc vous choisissez le A ?
Oui.
D'accord. Ben alors, la plupart des étudiants choisissent le A. C'est une expérience. Ouais. La plupart des gens choisissent le A.
Mais
il y a un mais. Deuxième programme, on pose le problème suivant numéro 2. Donc on a une épidémie qui touche 600 personnes, c'est la même chose. Et on doit choisir entre deux programmes sanitaires. Donc le premier programme, c'est 400 personnes qui vont mourir. Et le deuxième programme, c'est un tiers des personnes qui survivent et deux tiers des personnes qui meurent. Donc à votre avis, vous choisissez quoi ?
Mais c'est, encore une fois, c'est pareil, non ?
Oui, mais c'est l'inverse. En gros, on préfère dire qu'on sauve un tiers plutôt que de faire mourir 400 personnes.
Voilà, donc vous choisissez quoi ?
Le B.
Le B, voilà. Donc les gens choisissent le B.
D'accord, comment c'est formulé ?
Et donc en bref, la conclusion de l'étude, c'est que selon le fait qu'on met l'accent sur les morts ou sur les rescapés, les individus vont changer d'attitude. Bon, alors qu'au foncièrement, les quatre programmes sont équivalents. Donc en langage économique, c'est dire que quand on pense aux gains, on est averse au risque, et quand on pense aux pertes, en fait, on va être moins averse au risque, on va plus prendre de risques. Donc revenons à nos moutons, ça vous donne une idée en fait des effets de cadrage et de la manière dont on pose un problème, ça peut vraiment différencier les questions. À nos 5 moutons d'hier soir sur Antenne 1. Donc en sciences politiques, c'est Ganson et Modigliani et non pas Amedeo en 1989 qui ont repris la théorie de cadrage. Donc eux, ils ont essayé de comprendre comment les médias participent à la construction des problèmes publics à partir de la thématique du nucléaire aux États-Unis. Donc à partir d'un problème, ils vont forger les concepts de cadrage en sciences politiques et de panoplie interprétative. Donc interpretative packages, pour les relous qui veulent crâner en anglais. Donc selon eux, le discours médiatique peut être abordé comme un ensemble de cadres. Un cadre, c'est quoi ? C'est un schéma d'appréhension et d'évaluation que les médias élaborent pour mettre en scène... un cadre, c'est quoi ? C'est un schéma d'appréhension et d'évaluation que les médias vont élaborer en fait pour mettre en scène l'information et les événements qui surviennent aux yeux des spectateurs. Donc ici, chez les auteurs, c'est tout ce qui a trait à l'énergie nucléaire. Donc plus précisément, en fait, chaque cadre constitué par les médias va être constitué d'une panoplie interprétative qui va cadrer et contraindre le spectateur, ou du moins l'encourager, à adopter une certaine logique d'évaluation. Donc concrètement, une panoplie, c'est quoi ? C'est des exemples, des métaphores, des slogans, des catchphrases qui vont entourer logiquement un thème ou un événement en lui attribuant certaines causes, certaines explications, certaines conséquences, ou qui vont l'affubler de revendications morales. Donc vous voulez des exemples, je suis sûre, pour concrétiser un peu
oui,
tout ça ?
Oui, bien sûr, mais...
Livre-nous tes
Donc par exemple, sur le thème du nucléaire, une panoplie interprétative, ça va être le nucléaire, c'est le progrès. En termes d'éléments de discours, le nucléaire, c'est une source d'indépendance énergétique, ou le nucléaire, c'est un pacte avec le diable. Voilà, donc ça, c'est du prêt-à-penser, si vous voulez, des panoplies interprétatives que les médias vont relayer. Donc en fait, les auteurs vont remarquer que, notamment eux, c'est après la catastrophe de Three Mile Island en 79 que ça change, suivant le contexte médiatique. Donc en gros, les cadres interprétatifs sont sciemment produits par les journalistes et par les discours médiatiques pour influencer l'opinion. Donc dans le cadre de la campagne présidentielle, ils peuvent être produits par les candidats, la télévision, par les présentateurs ou la chaîne. Donc par exemple, si je vous donne le thème immigration, vous me sortez quoi comme panoplie interprétative ?
Celle de droite ou celle de gauche ?
La misère du monde.
Ah oui, la France ne peut pas...
Voilà, c'est ça, par exemple. On est envahi, c'est le grand oui. Remplacement. Ça, c'est une autre panoplie interprétative.
Oui, c'était Sarkozy qui parlait de fuite d'eau.
Voilà, au contraire, on peut avoir, c'est le cosmopolitisme, l'ouverture, la modernité, etc. Donc voilà, donc ça
citoyen
c'est
du monde.
Vous voyez bien que les candidats vont développer des panoplies interprétatives qui vont influencer les électeurs et que Marine Le Pen ne va pas dire vive le cosmopolitisme, mais plutôt
Qu'Henri de Lesquin, voilà, encore moins.
Donc au cours d'une campagne électorale, on a certains thèmes et avec certains cadrages qui vont arriver. J'aimerais encore combien de temps là ?
Oh, vas-y Maëlys, tu as tout le temps que tu veux.
Avec certains cadrages.
J'ai toute la nuit, Maëlys.
Toute la nuit. Pour parler de sociologie
toute la nuit.
Qui vont apparaître, donc en fait, du fait de l'activité consciente des journalistes et des élites politiques, économiques, etc. Et en fait, ce sont ces cadrages qui, très souvent, vont conditionner la tenue des débats et vont influer la façon dont la question va être construite et les réponses que ça va présupposer. Donc l'analyse des cadrages a par la suite été raffinée par d'autres chercheurs en sciences politiques au sein d'expériences comportementales. Et oui, la manipulation peut être très subtile, comme on va le voir tout de suite. Donc en 90, le chercheur Shanto Yangar a distingué par exemple les cadrages de type épisodique et les cadrages de type thématique, donc Kesako. Un cadrage épisodique, c'est en fait une manière de traiter un événement spécifique ou un incident ponctuel, en fait, sous la manière de manière vraiment informationnelle, etc., et très, très précis, très spécifique. Et un cadrage thématique, ça va être une manière de traiter une question plus large de société, etc., en ne se focalisant pas sur le spécifique et sur le concret. Donc en fait, suivant le cadrage utilisé pour traiter un même thème, le spectateur n'aura pas la même évaluation du sujet. Donc en fait, c'est une expérience que fait Yangar en 1990. En fait, il va tester l'objet pauvreté avec deux types de cadrage sur les spectateurs. Donc dans le premier reportage, en fait, on a un cadrage épisodique avec un reportage qui va relater les problèmes financiers d'un ouvrier de l'industrie automobile au chômage. Et dans le deuxième, on va avoir un cadrage thématique avec un reportage qui va plutôt porter sur le taux de chômage, le taux de pauvreté, avec des grandeurs macro-sociologiques et macro-économiques en France. Donc le résultat de son étude, c'est que au final, les spectateurs, enfin donc du coup il a pris un petit panel de spectateurs, le cadrage épisodique de la pauvreté, donc celui où on se focalise sur un ouvrier, va amener davantage le public à voir la pauvreté en termes de responsabilité individuelle, sur le mode les pauvres sont paresseux, quand le cadrage thématique en fait va entraîner de la part du public une perception de la société comme responsable du problème de la pauvreté. Donc voilà en fait comment, en choisissant un mode de cadrage, on peut influer directement sur le public, aussi facilement et subtilement que subtilement impressionnable. Donc en conclusion, je tenais à préciser que je ne suis pas du tout en train de crier au grand complot judéo-maçonnique médiatique, et que l'action des médias ne s'impose pas mécaniquement sur les spectateurs passifs que nous sommes. Parce que oui, aussi, les spectateurs ont leur mot à dire et mettent le grain de sel dans l'histoire. Mais ça, ce sera sûrement l'objet d'une prochaine chronique dans toute politique de ma part.
Avec plaisir.
Voilà. S'intéresser au ressort de la communication politique est en tout cas vraiment salvateur en cette période mouvementée. Et j'espère que vous ferez bon usage de la mise sur agenda, des effets de cadrage et des panoplies interprétatives lorsque vous analyserez les prochains débats, sans vous laisser jouer par les beaux mots de nos politiciens.
Et c'était Maëlys qui décortiquait le temps de cerveau disponible fourni par Antenne 1. Et tout de suite, comme chaque semaine, il se trouve que j'ai quelque chose à vous dire.